Hergé, le personnage du professeur Tournesol.
L'humanité ne serait jamais arrivée à ce qu'elle est arrivée, malgré toute son intelligence, dans une certaine curiosité.
Rendez-vous avec l'ingénieur physicien Auguste Piccard. Ce soir, à partir de 21h.
France Inter, partenaire du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, du 20 au 25 avril. 6 jours de concert, 130 artistes, avec Ben Lanclosol, Aaron, Florent Marchais, Brigitte, The Original Wellers, Catherine, Angus et Julia Stone.
Printemps de Bourges Crédit Mutuel, du 20 au 25 avril.
Renseignements sur franceinter.com.
France Inter. La différence.
15h04, c'est l'heure de retrouver la bassiste, j'y suis, de Daniel Mermet.
Allô, bonjour, c'est Céline en direct de l'école Choncoda à Nice. Ça fait 6 jours qu'on occupe l'école, qu'on dort dans la cour, qu'on y est jour et nuit, et on a gagné, on a sauvé la classe qui était menacée sur notre école. Voilà, on est super heureux parce que c'est pas tous les jours qu'on remporte une victoire grâce à une mobilisation. Et voilà, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Au revoir.
Salut Daniel, c'est les assistes de Montpellier, là, on est en manif devant le restaurant pour manifester contre la suppression des postes de Raved et de tous les autres qui ont lieu sur notre secteur. Alors pour ceux qui sont dans le coin, venez nous soutenir, on est déjà assez nombreux, on vous attend. Salut.
Allô, c'est Besançon, bonjour, est-ce que vous nous entendez? On est dans la rue, quelques centaines, et on fait du boucan parce que, en face, ils font la sourde oreille. Voilà, occupation de l'institution académique avant-hier, évacuée par les CRS au bout d'une journée. Merci, le dialogue social. Voilà, donc on est dans la rue avec les écoles, les collèges, les lycées, et on fait du boucan. Allez, salut à tout le monde et bougez-vous!
Benjamin de Saint-Ouen. J'ai été à l'école bilingue. Je ne fais pas partie de l'élite mondialisée. J'habite en banlieue. J'ai un travail normal. Je parle anglais. C'est l'avantage. Par ailleurs, Monique Pinceau est bien sympa, mais je pense que dans n'importe quelle école, quelqu'un se pointe et veut photographier les enfants dans la cour de récréation, sans autorisation, sans rien. Les instits viennent lui demander de s'arrêter. Je veux dire, c'est normal, hein. Je veux dire, faut arrêter la paranoïaque. C'est vraiment... C'est effrayant, quoi. Ça vous dégoûte du socialisme, votre émission. Hein. Vraiment, bonjour chez vous.
Monsieur Mermet, je réagis à l'émission du 5 avril reprenant la thèse de Bourdieu sur les héritiers. J'ai bouclé en 2009 une carrière de 40 ans dans l'éducation nationale au service de la mission républicaine de l'école et je m'étonne encore du peu d'écho de la thèse de Pierre Bourdieu au sein du système. Il faut néanmoins constater une sorte de déni institutionnel sur ses faiblesses. Si comme l'indique René Char, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil, alors la lucidité n'est pas une valeur partagée au sein du système scolaire. Je crois pour ma part que les acteurs du système dont j'étais ont commis une formidable erreur collective en standardisant dans les années 80 un modèle de fonctionnement du secondaire qui avait été conçu pour bien enseigner à un public trié, un modèle qui évidemment génère de plus en plus des dégâts pédagogiques puis sociaux avec un public massifié. Ce modèle du secondaire, il est construit autour d'un aréopage d'une dizaine de profs, tous spécialistes d'une discipline. Il s'appuie donc sur un découpage hermétique des savoirs qui laisse des pans entiers de la mission pédagogique et éducative en jachère. Pendant les 55 minutes de cours, elles aussi standardisées, des 55 minutes pour les rapides comme pour les lents, il n'y a aucun moment de disponibilité pour prendre en charge les difficultés des collégiens. Voyez le résultat, c'est un recours massif aux boîtes à cours particuliers, surtout et y compris pour les meilleurs. Autre jachère, le volet éducatif, qu'en est-il de l'objectif de l'éducation des citoyens dans un monde de la logique du toujours plus disciplinaire? Qu'en est-il de la démarche de construction du projet d'élève qui redonnerait tant de sens aux apprentissages? Notre système parviendra-t-il enfin à se réformer? Je n'y crois plus guère. Les enfants des milieux populaires sont en tout cas les premières victimes de cette école qui parvient à peine à transformer ceux qui héritent en ceux qui méritent. C'est dire si la question scolaire devrait se situer au premier plan de la campagne présidentielle à venir. Car dans ce domaine, n'en doutons pas, les prérogatives gouvernementales sont pleines et entières.
Bonjour monsieur, moi je vous appelle au sujet de la Côte d'Ivoire. Si la France s'est dit qu'il allait protéger les civils, pour quelle raison qu'il massacre maintenant les civils qui étaient autour de la résidence de monsieur Gbagbo Laurent? Pourquoi la France massacre ces gosses-là? s'il va là-bas pour protéger les civils, il n'a plus à tuer les civils. La France le fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons et la Côte d'Ivoire subit et les enfants de la Côte d'Ivoire subit? Vous les Français, vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, bonjour Daniel. C'est la première fois que je téléphone. J'ai une question à poser aux AMG. Il y a 12 000 Français en Côte d'Ivoire, ce sont des expatriés, tous des experts. Il y a la même proportion d'Ivoiriens en France, ils sont des immigrés. Je voudrais savoir la différence fondamentale entre des immigrés et des expatriés. Merci, à bientôt, au revoir.
Dans le cadre des repères de l'Abbassie, j'y suis à Poitiers, diffusion le mercredi 6 avril à 20h au bar Le Plan B à Poitiers d'un film sur le journalisme et les médias à travers le portrait de Marcel Tria qui a été journaliste à France 2 et qui réalise maintenant des documentaires sur la classe ouvrière. La projection du film Le Temps du JT sera suivie d'une discussion avec le réalisateur Yves Gaonac. La projection est donc le mercredi 6 avril à 20h au Plan B à Poitiers.
Extrait de la résolution 1973 sur Gaza, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité, se déclarant vivement préoccupé par la détérioration de la situation, l'escalade de la violence et les lourdes pertes civiles, condamnant la violation flagrante et systématique des droits de l'homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions forcées et exécutions sommaires, considérant que les attaques généralisées et systématiques actuellement commises à Gaza contre la population civile peuvent constituer des crimes contre l'humanité, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, 1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes les attaques et exactions contre la population civile. 2. Autorise les États membres qui ont adressé au secrétaire général une notification à cet effet et agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'arrangements régionaux et en coopération avec le secrétaire général, à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les populations et les zones civiles menacées d'attaque à Gaza. 3. Décide d'interdire tout vol de l'espace aérien de Gaza afin d'aider à protéger les civils. Décide que tous les États interdisant à tout aéronef enregistré à Gaza, appartenant à toute personne ou compagnie israélienne ou exploitée par elle, de décoller du territoire israélien, de survoler Gaza ou d'y atterrir, à moins que le vol ait été approuvé à l'avance. De la part de Jean, merci. Ciao.
Merci pour ces messages, chers AMG. Et ce dernier message peut ouvrir notre thème d'aujourd'hui. Mais avant, je voudrais parler des intellectuels. Vous savez que la France, parmi ses intellectuels, compte un certain Frédéric Lefebvre, qui a écrit un livre. Il a écrit un livre et on lui posait la question de savoir... vous le savez, c'est ce que je vais dire, vous le savez pour beaucoup d'entre vous, mais je le dis pour ceux qui débarquent. On lui a demandé quel était son livre favori et il a dit « C'est Zadig et Voltaire ». Parce que c'est une leçon de vie et je m'y replonge d'ailleurs assez souvent. Zadig et Voltaire, ils confondent évidemment Zadig ou la destinée de Voltaire avec la marque de fringues Zadig et Voltaire. Si bien que sur le net, et en tout cas au moins dans le Canard Enchaîné, vous avez un tas de propositions de livres qu'aurait pu lire notre Frédéric Lefebvre. Alfa Romeo et Juliette, du côté de chez Swatch. Triste Tropicana, de Lévi-Strauss. L'assassin habite au Ceinturi 21, de Stanislas André Stiman. Extension du domaine de la Matmut, de Houellebecq, etc., etc. On rigole avec les... ça nous fait un petit sourire, et merci à Frédéric Lefebvre de parvenir à ça. C'est pas si évident de faire rire un peu tout le monde. Et ça nous permet d'évoquer les intellectuels. Quand on dit le mot intellectuel, en France, généralement, on pense à cette espèce de grand dadais mondain qu'on voit avec son costard matuju dans les ruines fumantes d'un pays pauvre. On peut voir aussi, on pense à des messieurs maquillés sur des plateaux de télévision et qui... se dispute à coups d'éventail imaginaire ou symbolique. Ou alors on peut évoquer Sartre, Aron, Camus, sans évidemment les avoir lus, mais pour regretter qu'il n'y en ait plus, qu'on n'en ait plus aujourd'hui. Là-bas, si j'y suis, pour nous, les intellectuels n'ont pas le monopole du savoir. Et on l'a vu en Corse et dans les deux émissions sur l'enseignement d'hier et d'avant-hier, que les intervenants, des étudiants, des lycéens ou des profs, en quelques mots, en disent plus long que les longs discours ou les longues études. Est-ce que pour autant il faut jeter tous ces intellectuels ou les envoyer dans des camps de rééducation? Non, c'est pas sûr. Il y en a qui font leur boulot sereinement, pas forcément tranquillement, mais qui font leur boulot de recherche et qui utilisent, eh bien, les privilèges et les moyens qui sont les leurs pour tâcher d'éclairer leurs congénères, leurs contemporains, et de faire avancer la cause de la raison et de la vérité. Ce qui n'est pas facile dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le Proche-Orient. On était il y a quelques années avec Guy Van Til, pas mal d'années déjà, au moins une dizaine d'années, à Gaza. Et il y avait à l'époque encore un centre culturel français à Gaza, et les gens du centre culturel français nous disent « Oh, ce serait gentil si vous rendiez visite à des écrivains de Gaza, ils sont très sympathiques, très talentueux, ça leur ferait plaisir d'avoir la visite de journalistes français ». Donc nous sommes allés les voir, et on est entrés dans un local, on était très gentiment accueillis, et sur le mur, il y avait un grand portrait de Roger Garaudy. Alors on s'est un petit peu étonné, un tout petit peu crispé pour tout dire. Je précise pour ceux qui l'ignoreraient que Roger Garaudy est un intellectuel français qui, après être passé au Parti communiste, avoir tenu des postes très importants au Parti communiste, a fini par se convertir à l'islam et a approuvé les thèses négationnistes prétendant que les sionistes auraient inventé la Shoah pour justifier l'expansionnisme israélien. Alors on est un petit peu étonné, on a posé des questions à nos amis, nos interlocuteurs, écrivains, qui nous ont expliqué que c'était un grand homme et qu'il était favorable à la cause palestinienne. Et ça nous a renvoyé à quelque chose qui est présent dans le monde palestinien, dans l'histoire du nationalisme palestinien. C'est un des courants, effectivement, qu'on ne peut pas dissimuler, la sympathie qu'a éprouvé, plus que ça, qu'a manifesté, et plus que ça encore, le moufti de Jérusalem, Amin el-Hussein, à l'égard du nazisme et à l'égard d'Adolf Hitler. C'est quelque chose que ceux qui défendent le monde, la cause palestinienne, n'abordent pas, ou ignorent, ou n'abordent pas, ou passent sous silence. Or, notre intellectuel aujourd'hui, qui s'appelle Gilbert Achkar, a passé pas mal de temps de sa vie à s'intéresser à cette question. Et il publie chez Sinbad un livre qui s'intitule « Les Arabes et la Shoah, la guerre israélo-arabe des récits ». Gilbert Achkar est chercheur, il a travaillé en France, il enseigne maintenant en Angleterre, et il a fait un long travail. Alors quand je dis essayer de faire avancer la cause de la raison et de la vérité, c'est bien ce qu'il a orienté dans le but d'éclairer, eh bien, cette guerre des mémoires. Le conflit du israélo-palestinien, c'est un conflit et c'est une guerre, en somme, et on sait qu'elle est la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et donc, comment les deux camps, face à face, avec leur propagande, avec leur passion, avec leurs convictions, se mentent sur eux-mêmes et mentent sur l'autre. Et Gilbert Achkar essaye, dans ce fusionnement, ce bouillonnement passionnel, d'apporter un peu d'éléments, quelques faits et quelques façons raisonnables de réfléchir, dans le but tout simple que les uns et les autres se connaissent, se comprennent, ce qui est le préalable indispensable si on rêve encore dans cette partie du monde de la paix. C'est donc notre thème du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonsoir Daniel, bonsoir les auditeurs. Attention, un changement concernant le procès de Xavier Mathieu au tribunal de Compiègne. Il sera donc bien le 3 mai, mais à 13h30. Vous pouvez aussi également nous rejoindre sur Facebook dans le groupe de soutien à Xavier Mathieu. Nous sommes 4320 membres et nous vous attendons ou signez la pétition sur mesopinions.com. Bonne lutte à tous et merci.
Comme chaque premier mercredi du mois, le repère des amis de la Bastille J'y suis, de Bègles et des environs se réunira ce soir mercredi au bar Le Poulailler, place du 14 juillet. Le thème du débat, de points, l'abstention est sous le tapis. Venez nombreux à ce soir. Au revoir.
Bonjour à tous les AMG. Aujourd'hui se tiendra à Tréguier, dans les Côtes d'Armor, le repère de la Bastille J'y suis, au café L'Aigle Noir, à partir de 18h30. Nous vous invitons à venir discuter des révoltes dans les pays arabes. Donc à ce soir, Tréguier, à L'Aigle Noir.
Oui, salut Daniel, salut les AMG. C'est Besançon, voilà. En direct du boucan de Besançon. Alors, épisode 2. La réponse de la République aux manifestants qui viennent simplement pour réclamer des postes pour que leurs écoles fonctionnent bien. Eh bien, la réponse sur des enfants qui étaient proches, des enfants de 3 ans, de 4 ans, la réponse, c'est les gaz lacrymo. Exactement, les gaz lacrymo. Vraiment, bravo les gars, bravo les gars. C'est écœurant, écœurant, écœurant. Allez. Et j'espère que ça va bouger, qu'on va leur montrer qu'on ne lâche rien. Merci, salut, c'est Olivier de Besançon.
Bonjour à tous, vous étiez à Neux lundi et un petit peu hier. Eh bien, c'est pour vous dire que le repère de la Bastille J'y suis à Monchy-Breton dans le Pas-de-Calais se réunit ce jeudi 7 à partir de 18h30. Et entre autres, nous parlerons de la Côte d'Ivoire avec un de nos copains qui est originaire de la Côte d'Ivoire. Et peut-être qu'on y comprendra un petit peu quelque chose. Allez, tous à Monchy-Breton, chez Tartous et compagnie.
Ce sont ceux qui héritent qui méritent. À Haïti, ce sont toutes sortes d'églises qui ont supplanté l'école. C'est une star de la chanson qui a été élue contre une intellectuelle qui connaît bien la politique. Ils vont tous pouvoir chanter Alléluia avec leur président, tout en continuant à manger des galettes d'argile. Je plains de tout cœur les 33% de méritants qui ont perdu leur élection. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Oui, bonjour. Ben, moi, c'est juste un petit message de printemps pour dire qu'il fait beau et que j'en profite et que c'est drôlement bien de rien foutre. Mais vraiment. Et pendant pas mal de temps, moi ça ne me dérange pas, je culpabilise pas par rapport à ça. Et vraiment, je vous souhaite à tous un très bon printemps. Salut!
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, avec Gilbert Ashkar. Les Arabes et la Shoah, la guerre israélo-arabe, les récits.
Ouais, Gilbert Ashkar, vous vous êtes attaqué à un sujet extrêmement sensible, névralgique, mais très important, qui est celui, on pourrait dire, d'une guerre des mémoires entre Israéliens et Palestiniens. Chacun vit avec un traumatisme. Les Israéliens avec évidemment la mémoire du traumatisme de la Shoah et les Palestiniens, et ça on le sait moins, avec le traumatisme de la Nakba. Ça veut dire la catastrophe, c'est ça en arabe?
Oui, de même que le terme hébreu Shoah signifie catastrophe, oui.
Deux catastrophes. Alors vous partez de ça, vous partez de ces deux traumatismes et vous voudriez arriver à ce que les uns et les autres comprennent le traumatisme de l'autre, en disant un petit peu ce que disait votre confrère Edouard Saïd, que tant que les uns et les autres n'auront pas reconnu le drame ou le nulle part de l'autre, ce sera autant de handicap ou d'entrave pour le dialogue et donc pour la paix. Et là, vous vous penchez sur une époque qui est toujours évoquée de façon délirante, vociférante, à cause du conflit lui-même, qui est la période de la Deuxième Guerre mondiale et avec la figure bien connue du moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, qui est un personnage bien difficile à défendre. Et vous ne cherchez pas à le défendre. Par contre, vous parlez très très longuement de lui et de ce personnage dans l'histoire. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de ces deux mémoires différentes. Il y a une guerre des mémoires, il y a une concurrence victimaire. Est-ce que on peut mettre ces deux catastrophes sur le même plan?
Non, certainement pas. Et c'est bien pourquoi je fais la distinction nécessaire entre le génocide juif, le génocide perpétré par les nazis, et le déracinement des Palestiniens, l'expulsion des Palestiniens en 1948, qui est la Nakba en 47-48, il y a un déracinement des Palestiniens. Bon, alors évidemment, un déracinement, une expulsion, ce n'est pas la même chose qu'un génocide. Et donc, il ne s'agit pas de dire que ce sont des tragédies équivalentes du point de vue de l'objectivité historique. Il n'y a pas photo, je veux dire, le génocide juif fait partie des plus grandes catastrophes, en tout cas de l'histoire moderne. Ça, il n'y a pas de discussion à ce sujet, il me semble. Donc, j'établis bien ces choses-là. Mais cela dit, dans le vécu des gens, dans le vécu des peuples, évidemment, chacun a sa catastrophe, d'une part. Et puis, d'autre part, il faut dire que la Shoah, bien heureusement, relève du passé, c'est-à-dire d'une période où il faisait minuit dans le siècle, n'est-ce pas, au XXe siècle, mais qui est révolue, même si on peut toujours voir le spectre de l'antisémitisme ici et là, tandis que les Palestiniens continuent à vivre dans la Nakba au quotidien. Je veux dire que l'oppression que subissent les Palestiniens, elle ne s'est pas arrêtée en 1948, loin de là. On peut même dire que, en ce qui concerne les Palestiniens des territoires occupés en 67, c'est-à-dire Gaza et la Cisjordanie, la dernière décennie a été la pire de leur histoire. L'oppression, les souffrances qu'ont subies les Palestiniens au cours de la dernière décennie n'ont pas d'égal dans l'histoire même du peuple palestinien. Donc voilà comment se présente le problème.
Alors ce problème, il faut l'inscrire dans l'histoire, les Arabes et la Shoah, mais l'histoire commence bien avant. L'histoire commence toujours bien avant. Mais on peut pas aborder directement le sujet sans évoquer ce qu'a été le sionisme, ce qu'a été l'arrivée des Juifs d'Europe en Palestine, et ce que ça a fait aux Arabes palestiniens, leur réaction, le développement eux aussi de l'idée d'un nationalisme palestinien, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, et des conflits et des refus extrêmement violents, mais pas toujours.
Oui, enfin, le sionisme, alors ça aussi je le souligne, il ne faut pas l'oublier, parce que le manichéisme est roi sur ce thème, sur ce conflit, comme d'ailleurs la plupart des conflits passionnels. Bon, le sionisme au départ est une réponse à l'antisémitisme en Europe. C'est une des réponses qui existent, et c'est une réponse au départ minoritaire et fortement critiquée, attaquée, combattue parmi les Juifs d'Europe, qui considéraient le sionisme comme une entreprise réactionnaire visant à déloger les Juifs d'Europe de ce territoire européen auquel ils appartiennent, dans lequel ils sont enracinés. Et c'est resté un mouvement tout à fait minoritaire jusqu'à l'arrivée du nazisme au pouvoir.
En 33,
qui va donner crédit en quelque sorte aux thèses sionistes sur l'impossibilité d'une coexistence heureuse entre juifs et non-juifs, la nécessité pour les juifs d'avoir leur État. Et même avec la montée du nazisme, on peut voir que la grande majorité des juifs qui quittent l'Europe vont plutôt en Amérique du Nord, vont plutôt vers d'autres destinations que la Palestine. Donc le mouvement sioniste va déployer toutes sortes de moyens afin de canaliser la partie la plus grande possible de cette émigration de juifs d'Europe vers la Palestine. Et en ce qui concerne les juifs allemands, il est bien connu qu'en 1933, peu après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le mouvement sioniste a conclu un accord avec l'Allemagne nazie, privilégiant la Palestine comme destination pour les juifs allemands que les nazis au départ expulsaient. Ils n'en étaient pas encore au génocide qui va venir à partir de 1941. Et selon cet accord, la seule destination en fait où les juifs allemands pouvaient partir avec une partie de leurs biens, c'était la Palestine. Il y a même eu collusion ou coopération, quel que soit le terme qu'on veut utiliser, parce que bon, chaque terme est chargé.
Oui.
Mais il y a eu coopération entre le mouvement sioniste et les autorités nazies, même dans l'organisation de l'immigration illégale en Palestine, c'est-à-dire en contournant les quotas d'immigration imposés par les Britanniques. Bon, c'est ce double visage, enfin, du mouvement sioniste qui est d'une part une réaction à l'antisémitisme, mais qui est d'autre part un projet de colonialisme de peuplement qui s'inscrit à l'époque dans l'optique coloniale du moment de sa naissance, à la fin du XIXe siècle, qui s'inscrit dans les visées impériales de la Grande-Bretagne à partir de la Première Guerre mondiale, qui va se déployer en tant que tel jusqu'au moment où il va entrer en conflit avec les intérêts de la politique britannique vers la fin. Mais cette fin va aboutir à la création d'un État fondé sur une usurpation de territoire, il faut appeler les choses telles quelles. Le gros du territoire occupé par l'État d'Israël à sa naissance est un territoire occupé, depuis le début, hein, c'est pas seulement 67 qui a occupation, et déracinement de 80% de la population de ce territoire, de la population indigène de ce territoire.
ונאז מן בית באים הטוי וטוטר הרברנק תמול צורי קש בסדריה הבלים אלפונדר קינד הייתן הם בליין ונדם הולבך תוי חויב דר חוש הריח ונצודם עובר מת השפרונג דר גייך ונדם הולבך תוי חויב דר חוש הריח Und zu dem Over mit der Sprung der Geich. Amol ist der Sikoren euch a guter. Und aus meinem Bett bei ihm a teure Tuter. Bringt amol zurück als bis der Rie. Abli imel von der Kindheit in dem Blien. Und dem Olwacht euch auf der Kuschareia. Und zu dem Over mit der Sprung der Geich. Und dem Olwacht euch auf der Kuschareia. Und zu dem Over mit der Sprung der Geld. Die Mama reißt die Hör mir mit dem Kämmen. Mit Puder schmiert sie ohne weißen Sämen. Sie tut mir an die kinderische Kleider. Und führt mir ab zum Reben in einem Heider. Sie tut mir an die kinderische Kleider. Führt mir ab zum Reden in den Heer. Amol ist der Sikoren euch a guter. Und als mein Bett bei ihm a teuwe tut er. Bringt amol zurück als bis der Rie. Ab Limmel von dem Kindheit in dem Blieb.
Alors, cette population indigène, elle résiste, elle s'oppose. De la part des Arabes, on aura des guerres. 33, c'est ça? 33, 36?
La grande révolte arabe, c'est en 36, 36, 39.
Oui. C'est ça. Et on aura aussi, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, un rapprochement entre des courants nationalistes religieux palestiniens, qu'on n'appelle pas encore palestiniens, et Hitler et les nazis.
Enfin, oui, des courants, c'est-à-dire il y a des sympathies, disons, parmi certains courants au sein du mouvement national palestinien, et notamment du côté de ceux qui ont des attitudes de type intégriste religieux. Il y a des sympathies envers l'Allemagne nazie, mais ça ne va pas très loin jusqu'au moment où le Mufti, parti en exil en 37, se retrouve en 1941 en Europe, et va passer le reste du temps de la guerre, donc jusqu'en 45, entre Berlin et Rome, en collaborateur des deux régimes. Et là, j'utilise collaborateur au sens
plein,
plus fort.
Au sens plein du
oui,
mot.
Oui, absolument.
Sur le principe, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et les ennemis sont, pour ce courant, ou en tous les cas, au moins pour ce grand moufti de Jérusalem, ce qui n'est pas rien, sont aussi bien les Britanniques que les sionistes.
Que les Juifs. Que les Juifs. Hein, il fait pas dans la dentelle à ce niveau-là. Le Mufti a un discours violemment antisémite et va répercuter à partir de Berlin et de Rome sur les ondes et par divers moyens, dans tous les moyens de propagande des deux régimes. Il va se faire un peu le relais de cette propagande antisémite des nazis avec sa propre touche. Je veux dire, il va islamiser cette propagande antisémite des nazis. Et c'est d'autant plus criminel et indéfendable qu'il le fait au moins à partir de 1943 en connaissance de cause quant au génocide. C'est-à-dire que lui-même reconnaît dans ses mémoires qu'il a été informé dès l'été 43 du génocide en cours, et par nul autre que Himmler lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs, bon, je dis constamment qu'on peut accuser le Mufti de beaucoup de choses, mais pas d'être négationniste. Hein, ça, dans ses mémoires, il n'y a pas un soupçon de négationnisme, bien au contraire. Il y a même une confirmation de la réalité du génocide et même des proportions connues du génocide. Sauf que lui trouve que c'est une punition bien méritée par les Juifs, dans sa conception antisémite, virulente des choses. Par contre, toutes les exhortations du Mufti en direction du monde arabe, en direction des Palestiniens, des Arabes, afin de se joindre aux forces de l'axe fasciste, de combattre les Britanniques et les Alliés, toutes ces exhortations ont eu très très peu d'écho, un écho tout à fait marginal de fait. Hein. Et les chiffres sont là pour le prouver, hein. Je veux dire, je cite ces chiffres-là, mais un historien américain a voulu compter le nombre d'Arabes au sens très large du terme, donc d'habitants de cette région qui va du Golfe jusqu'à l'Atlantique, hein. Donc l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, il a trouvé un peu plus de 6000 personnes. Bon, et ça je suppose c'est en comptant large, alors que rien que de Palestine, il y a 9000 Arabes palestiniens qui ont combattu dans les rangs de l'armée britannique, des milliers et des milliers d'autres du reste du Moyen-Orient, et un quart de millions de Nord-Africains, d'Arabes et Berbères, ont combattu dans les rangs de l'armée de libération de la France.
Alors que, ordinairement, cette figure du moufti Amin al-Husseini, qui est donc un collaborateur et un véritable antisémite pro-nazi, cette figure-là est très souvent utilisée pour discréditer la cause palestinienne, dans le cadre de la propagande des deux camps.
Oui, dans le cadre de cette propagande, on accorde infiniment plus d'importance à cette figure-là qu'aux dizaines de milliers qui ont payé de leur vie dans la lutte contre l'Axe. Hein. On accorde beaucoup plus d'importance à la figure du Moufti. Il est érigé en représentant de l'ensemble des Palestiniens et des Arabes. Il y a une sorte de nazification délibérée des Arabes par ce type de propagande qui sert de nazifier les Palestiniens et les Arabes. Et c'est une constante dans le conflit israélo-palestinien que du côté israélien, on a comparé aux nazis les adversaires du moment. Bon, Hitler, on l'a vu rejaillir tant de fois, n'est-ce pas, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et notamment dans le monde arabe. Alors, je ne parle pas de Milosevic et autres qui ont également été comparés à Hitler.
Non, mais avec Nasser,
voilà,
avec Saddam
avec
Hussein.
Nasser, Arafat, Saddam Hussein, etc. Jusqu'à aujourd'hui, bon, on voit la nazification du Hezbollah libanais, du Hamas palestinien. Il y a toute une propagande qui essaye de montrer que ces mouvements sont d'essence nazie, n'est-ce pas? Et cette nazification de l'adversaire, bon, elle a évidemment une fonction évidente, c'est de cultiver le soutien, notamment du côté occidental, et les sympathies des opinions publiques par rapport à Israël, en évoquant, n'est-ce pas, toute la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et là où on atteint un comble, n'est-ce pas, dans le deux poids deux mesures, c'est que cette nazification des Arabes gêne beaucoup moins certains qui, par contre, font un scandale énorme chaque fois qu'il y a une comparaison des agissements d'Israël avec le nazisme. Alors, toutes ces analogies ne valent pas grand-chose, parce que, bon, rien de tout cela n'équivaut à ce qu'ont fait les nazis, hein, mais il n'empêche qu'on peut voir ce deux poids deux mesures, hein, c'est-à-dire toute utilisation de l'analogie avec le nazisme en ce qui concerne les agissements d'Israël est qualifiée d'antisémite, alors que on peut comparer toutes sortes de groupements dans le monde arabe aux nazis.
Zionists came with ships to the Holy Land, and nowadays they don't admit it's a stolen land. I throw a rock with a swollen hand, dig it in the earth and raise my fist with the golden sand. But they came back with F-16s and tanks, assassins with high ranks, so we settled for Gaza, the West Bank. Started putting checkpoints to divide us even more, settlements on every hilltop of an unsettled score. Made the anger inside us eager to explode, Intifada 1 and 2 let the rage unload. But they built a wall around us and called it a fence. They murdered my people and labeled it self-defense. Cause while they're choosing to be the chosen ones by God, they're choosing us to be the ones to eat shit and rot. But nevertheless, I carry the slingshot in my right hand, stone in my left. Who am I? Just the outcome of the pain and the death, resistant to the rain and the theft. As long as my voice producing tones on a clef, I'ma keep spitting till I'm all out of breath and all out of time. See the future ahead, try to climb, but you're practically dead. Reminded you're from Palestine, push way behind in the line. You're all I want is what's mine, and I'll be fine. I'm not asking for much, but still decline. I guess it's hatred from my kind, because the news plants it in their minds, redesigns and repulsively defines me for their headlines. I never knew that freedom had a deadline. I never knew that freedom had a deadline.
This is a Zionist story. Zionist history. 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 This is a Zionist story.
Alors, ce qui est passionnant dans votre bouquin, je rappelle le titre, Les Arabes et la Shoah, Gilbert Achkar, c'est que
vous étudiez longuement et très précisément comment le monde arabe a réagi face au nazisme et face à la Shoah. Comment ça a été reçu? Alors, vous vous découpez en plusieurs périodes, et pour la période 33, donc avènement du nazisme, jusqu'à 45-47, vous distinguez quatre courants. Donc pas seulement le courant du Mufti. Vous distinguez les occidentalistes, libéraux, les marxistes, les nationalistes et les intégristes panislamistes. Donc effectivement, ça fait quatre courants. Oui. Ça nous parle aujourd'hui parce que avec cette révolution arabe, ce printemps arabe qui agite pas seulement le monde arabe, qui va très très loin, on découvre, si toutefois on l'ignorait, qu'il s'agit, comme vous le dites, d'un monde complexe, multiple, avec des histoires différentes par pays, et qu'à l'intérieur de chacun de ces pays, bien évidemment, il y a des courants très différents, comme chez nous. Mais parlez-nous quand même de ces quatre courants, si c'est possible, dans le cadre d'une émission comme celle-là, qui n'arrivera jamais, de toute façon, quoi qu'on fasse, à épuiser votre travail et ce livre.
Oui, enfin, l'existence de ces quatre courants montre déjà que le monde arabe n'est pas plus imperméable que d'autres aux idéologies qui existent dans le monde, hein. Donc, on trouve le prolongement de ces idéologies. Alors, maintenant, il y a une spécificité des régions à majorité musulmane, c'est l'intégrisme musulman. Mais alors, on trouvera d'autres formes d'intégrisme, chrétien, juif ou autre, dans d'autres...
hindouistes, par exemple.
Oui, dans d'autres parties du monde. Mais par contre, pour les grandes idéologies politiques universalistes, telles que le libéralisme, le marxisme, ou les différentes formes de nationalisme, ben, on retrouve tout cela dans le monde arabe. Hein. Ce monde arabe qui, effectivement, est en train de prouver contre cette vision orientaliste au sens péjoratif d'Edouard Saïd, qui présentait les Arabes, ou sinon les musulmans, n'est-ce pas, comme des gens qui, par atavisme culturel, sont, disons, accoutumés au despotisme, eh bien, on voit ce qu'il en est, n'est-ce pas, aujourd'hui, dans le monde arabe, effectivement. Alors, de ces quatre courants, bon, les libéraux, comme les marxistes, qui, soit dit en passant, ont bel et bien existé dans le monde arabe, parce qu'ils sont souvent gommés de la présentation des courants politiques de la région, alors que c'était un courant politique qui, à un certain moment, était considérable, eh bien, était très clairement anti-nazi, hein, approche du nazisme, du temps du nazisme et par la suite. Et puis, les nationalismes, là aussi, faudra faire des distinctions des nationalismes de gauche qui sont anti-nazis pour qui le nazisme est un mal.
Et puis des nationalismes qui font des rapprochements avec
Des ultranationalismes, oui, de droite ou d'autres qui font un rapprochement. Enfin, il faut dire une chose, c'est que, un, il y a eu pratiquement un seul véritable clone du nazisme dans le monde arabe. Et c'est un parti opposé au nationalisme arabe qui a une autre idéologie, la Grande Syrie. C'est le parti nationaliste social syrien, bon, fondé par un chrétien libanais dans les années 30. Et que la deuxième chose qu'il faut dire et que je voudrais souligner ici, c'est que, à tout prendre, il y a eu considérablement moins de partisans du nazisme, d'adhérents à la doctrine nazie, à l'idéologie fasciste, dans le monde arabe, dans toute cette période-là, qu'en Europe, y compris l'Europe occidentale, y compris la Grande-Bretagne, ou même les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est une réalité historique que les gens oublient également, parce qu'il y a toujours ce... Bon, c'est pour ça que je mets en exergue la fameuse la paille et la poutre, hein, c'est-à-dire, bon, on voit la paille chez les Arabes, mais on voit pas la poutre...
Mais encore une fois, il y a un conflit. Un conflit, ça suppose de la propagande, hein. C'est un aspect de la guerre. Il y a la guerre militaire et puis il y a la guerre à travers la propagande. Et ces éléments d'histoire sont utilisés, sont exploités, sont exacerbés à des fins de propagande. C'est tout l'objet de votre travail, pour essayer de calmer le jeu et de donner des éléments d'histoire, des éléments savants, disons, puisque ça suppose une recherche très pointue, pour essayer de faire comprendre aux uns et aux autres ce qui s'est passé souvent dans leur propre camp. Dans la période, donc, après Shoah, donc, au moment de la Nakba, il faut rappeler en quelques mots ce qu'est la Nakba, ce que fut la Nakba.
Ben, la Nakba, c'est, enfin, je crois que le terme le plus approprié est un terme qui est apparu dans le vocabulaire plus récemment, hein, qui est le terme d'épuration ethnique. C'est effectivement un cas d'épuration ethnique, c'est-à-dire c'est la prise de contrôle d'un territoire avec expulsion par des moyens de terrorisme, par la force, et pour une autre partie de la population, par le seul fait que les populations civiles fuient les zones de guerre. Donc il y a déracinement de la grande majorité de la population de ce territoire, qui, au-delà de tout débat sur les raisons de l'exode, cette population se voit interdite de retour.
Et c'est là le fait de l'usurpation et du déracinement. Finalement, le débat sur les causes de l'exode est relativement secondaire, puisque le fait marquant, c'est une fois ces populations sorties du territoire, une fois l'État constitué, on va raser des centaines et des centaines de villages, on va s'emparer des propriétés, des habitations et tout en zone urbaine, on va essayer de même d'effacer l'identité de cette population qui était la population indigène du territoire.
Mmh. Vous dites, pour revenir au mufti, au grand mufti de Jérusalem, qu'il a une responsabilité dans cette Nakba.
Ah oui, bah évidemment qu'il a une très grande responsabilité dans la Nakba, comme toute direction d'une lutte quelconque ou d'un mouvement quelconque a sa part de responsabilité dans la défaite. C'est-à-dire la défaite est infligée par l'adversaire, mais il y a aussi la façon dont la lutte est dirigée. Et de ce point de vue-là, la direction par le mufti du mouvement national palestinien a été catastrophique. En un sens, ça a confirmé le bien fondé du fait de l'avoir choisi par le haut commissaire britannique en Palestine, Herbert Samuel, qui était connu pour ses opinions sionistes. Hein. Bon, et c'est lui qui a choisi, y compris en tournant le cou aux procédures d'usage, a choisi Amin al-Husseini, qui à l'époque était tout jeune et n'avait absolument même pas les qualifications théologiques qu'il fallait, l'a choisi au poste de grand mufti de la Palestine, en comptant sur le fait que ce personnage allait être utile aux Britanniques. Et je dirais, il s'est avéré non seulement utile aux Britanniques, mais encore plus utile au mouvement sioniste, hein, qu'à voir donc l'utilisation qui en est faite. Jusqu'en 36-37, le mufti va systématiquement détourner la colère palestinienne vers les Juifs, hein, plutôt qu'elle se dirige contre l'occupant britannique, contre la puissance coloniale britannique, c'est vers les Juifs qui va détourner cette colère, en comptant sur la possibilité de gagner la Grande-Bretagne aux côtés de la cause des Palestiniens et des Arabes. Et puis après 37, à partir de la guerre, il établit donc le contact direct avec les nazis et après passe chez eux. Hein. Et par la suite, une fois retourné, à deux reprises, il va faire de la surenchère contre tout le monde, déjà en exil, il fait rater aux Palestiniens ce qui était la culmination de leur grande révolte de 36-39. Il y a le livre blanc britannique en 39 qui prévoit un État unitaire en Palestine avec égalité de droits, représentation, etc. des communautés existantes. Et il s'oppose contre l'avis d'une bonne partie des directions du mouvement national palestinien. Et c'était une occasion ratée un peu pour le mouvement palestinien. Sa collaboration avec les nazis va être saisie par le mouvement sioniste immédiatement après la guerre dans sa propagande en direction des puissances alliées afin d'obtenir donc leur soutien à la création de l'État qui va être voté par l'ONU en 47. Et bon, après la Nakba, le mufti va être marginalisé sur la scène politique palestinienne et arabe, considéré comme responsable, effectivement, de la défaite. Hein. C'est un organisateur de défaite, si l'on peut dire. شوي شوي عم بتعتب تمر البيت عشان تجيب الحيط فجأة عم بتلثم بس أنا يبيني مورق الناس معي صاص بستنى في الباص بركي صدق من الراس عين تستنى وعين تتمنى يكون في طريقة تانية مش عارف رأيي بتغير كل ثاني علي طار افكار مثل النار حامية خنانين ضحية سياسة خاينين المحتلين المتحكمين في البني ادمين احنا كلنا رشوا عايشين ولا ميتين المشكلة اننا مش عارفين الجنة صارت حرب اهلية من جواي بين الخير والشر الانتقام في دمي بس بعد كل عملية شعبي اللي بينضر كمان فلسطيني بينضر من بلده فجأة المسمار واصبعي بده يطلق بس ايدي بدها تترك فلسطين انا مثلك محتار ومنهار محروم من حقي على الان بين خيارين ومش عارف شو انقي الحياة ولا الموت بس صرت عم بسمع الصوت بس صرت عم بسمع الصوت West controls bank the funds, the tank that sweeps the planes off. Gaza stripped of dignity, pride. Nowhere to run to, nowhere to hide. You bobbing on from school just died. Two siblings, eyes open wide by side. Sister, hurry up, brother, salam. Cry freedom, cry peace. Generosity deceased, decapitated. Destruction created. Hatred, homeless, camped at refugee. Rafa, catastrophe, Nakba. Ethnic cleanse and attack the native population. Occupation under nighttime Apaches, thunder. Fighter just like Empire Rome. Cats on the prowl, bulldozing home alone. Debris, the feather, clutch stone. Cold without Steve's, Austin Powers. Watching towers, raining bullet showers. Soil unfit for flowers. Curfew minutes in the hours.
عايشين كل يوم يا عادل يا مقتول كل واحد يمسك السلاح وخفت شيوجهم على طول ما في حل الا هيك حط الشعب بيديك واقف على رجليك وهجم على العدو قبل ما يهجم عليك هيك تعلمنا واحنا صغار هلا صرنا كبار راح يصير دمار يعني راح يصير دمار عشان نذكر الصهاينه باللي صار حاولنا نضل محشار بس طلع قرار ما في وقف اطلاق الناس ومن تحت الحصار كل يوم قاعدين في الدار دمي فار افكار كيف نخلي اسرائيل تنهار اصوات من برا طخ وقصف انفجارات ونسف مكبرات صوت ممنوع التجول التجول ممنوع بس لما احكي حيكون صوتي المسموع علم المرفوع تغيرش الموضوع ايوه هيك تغيرش الموضوع.
Un sujet rarement évoqué pour ce qui concerne le Proche-Orient et l'histoire de ce conflit, un sujet presque tabou, les rapports entre les Arabes palestiniens dans leur dans le développement de leur nationalisme et la Shoah, la façon dont ils ont perçu la Shoah et les rapprochements qui ont pu exister. On vient de l'évoquer avec entre le grand moufti de Jérusalem et Hitler et le nazisme, ce qui évidemment n'a pas été la généralité, le cas de tous les Palestiniens, de tous les mouvements palestiniens, comme Gilbert Achkar nous l'explique à partir de son livre « Les Arabes et la Shoah, la guerre israélo-arabe des récits ». Alors, par la suite justement, à partir de 1967, apparaît l'OLP, quelle va être dans les époques successives l'attitude des Arabes palestiniens, en l'occurrence vis-à-vis de la Shoah?
Oui, enfin 67 c'est un marquant dans l'histoire de l'OLP. L'OLP est fondée en 64, mais c'est après la guerre de 67 que la montée du mouvement de la lutte armée palestinienne, dont la base principale est la Jordanie à l'époque, va aboutir au contrôle par les organisations palestiniennes de l'OLP. Et on va voir une évolution des discours dans l'OLP avec bien cet effort particulier fait pour comprendre qu'il faut s'adresser aux Israéliens juifs, si l'on peut dire. Donc il faut s'adresser à cette population-là, il faut un programme qui aille au-delà de la vision nationaliste étriquée de quelqu'un comme le Moufti, par exemple, qui était pour le départ de Palestine, de tous les juifs qui étaient venus après 1917, après la prise de contrôle par les Britanniques, après la déclaration Balfour. Donc, on a vu l'OLP ont développé un programme tel que celui de l'État démocratique et laïque, etc. Donc, ils sont des tentatives de prendre en compte et de proposer une solution démocratique à la question. Et puis, on a vu en particulier des intellectuels palestiniens comme Edouard Saïd, Mahmoud Darwish et d'autres aller loin dans la compréhension du poids de la Shoah dans la psyché israélienne. Et ça, c'est une chose importante à comprendre, parce qu'il y a une attitude assez courante dans le monde arabe qui consiste à dire ou à voir la Shoah, quand on ne réagit pas par ce que j'appelle l'antisionisme des imbéciles, qui est le négationnisme dans cette région, enfin ceux qui croient que par une attitude négationiste,
ils vont trouver la solution.
Non, oui. Ils font du mal à Israël ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, ça rend service, parce qu'on a qu'à voir l'usage que fait la propagande israélienne de toute expression de négationnisme dans le monde arabe. Mais bon, au-delà de cette minorité-là, pour beaucoup de gens, l'attitude, c'est la Shoah, le génocide juif, c'est un thème qu'exploite l'adversaire et donc qu'il faut ignorer dans le meilleur des cas. Hein. Alors que il faut comprendre que la question de la Shoah en Israël n'est pas seulement instrumental. Je veux dire, c'est pas seulement, n'est-ce pas, une sorte d'utilisation cynique par l'État, par les moyens de la propagande, par le mouvement sioniste, de la question de la Shoah afin de justifier leurs actes. Il y a cela, bien entendu, et ça a été dénoncé par des auteurs israéliens y compris, des ouvrages excellents là-dessus, comme Tom Seger, Vidit Zertal, qui ont écrit d'excellents ouvrages sur cette question. Il y a cela, mais il y a aussi, indéniablement, il y a un poids de la Shoah dans la conscience, dans la psyché des Israéliens, et que du côté arabe, il est nécessaire, du côté palestinien, de comprendre afin de pouvoir s'adresser à cette population-là, parce que il n'y a pas de solution militaire possible à ce conflit, ou alors c'est une catastrophe à ce moment-là pour Arabes et Juifs, n'est-ce pas, hein, vu ce que ça signifierait, avec les armes de destruction massive et le reste. Et donc, une solution juste et durable de ce conflit passe par la possibilité de détacher une majorité des Israéliens du type de politique qui ont été poursuivis par l'État jusqu'ici. Parce que, et je voudrais ajouter juste un mot à cet égard. On a, dans les médias occidentaux, européens, on avait cette image d'un monde arabe pris par l'intégrisme. Mmh. Hein? Alors, d'abord, on est en train de voir que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Et d'autre part, en fait, les courants intégristes qu'il y a dans le monde arabe sont la plupart du temps dans l'opposition. Mais enfin, d'ignorer le fait que la société et le gouvernement israélien, étant élus par l'électorat israélien, n'ont pas cessé de glisser vers la droite dure et même l'extrême droite depuis maintenant plusieurs décennies. Depuis l'arrivée du Likoud au pouvoir en 1977, jusqu'aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le chemin parcouru. Hein. Le parti fondateur de l'État d'Israël, donc le parti dit travailliste, est en quatrième position. Il vient de scinder récemment, mais il était en quatrième position à la Knesset. Les deux premiers groupes de la Knesset sont tous deux issus historiquement du Likoud, donc du Herout, donc du révisionnisme de Jabotinsky, qui était qualifié par les travaillistes dans le mouvement sioniste de fasciste, n'est-ce pas? Et le troisième groupe à la Knesset est celui de Lieberman, qui est ouvertement raciste, ex-leader de boîte de nuit, qui veut vider maintenant les Arabes d'Israël et de Palestine, et qui est ministre des Affaires étrangères de l'État. Et cela, il faut comprendre que c'est là le véritable blocage.
Mais moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, toujours dans le cadre de ce conflit, on a une expression franchement antisémite dans le monde arabe. Je pense notamment, par exemple, au protocole des sages de Sion, diffusé en feuilleton à la télévision égyptienne. On cite ça. Enfin, il est courant dans la presse arabe que vous connaissez de lire des horreurs racistes et antisémites.
Oui, ça, c'est indéniable et ça fait partie donc de cette troisième phase dans l'histoire politique de la région. Je crois qu'on est à l'orée d'une quatrième phase, mais j'identifie trois grandes phases dans l'après 48. Ce que j'appelle les années Nasser, puis les années OLP et ensuite les années des résistances islamiques. Or, cette dernière phase, qui couvre les deux, trois dernières décennies, où des courants de nature intégriste deviennent dominants dans l'expression de la contestation populaire, est une phase, et à mon sens, une phase donc de régression idéologique par rapport à ce qu'il y avait du temps du nasserisme ou du temps où l'OLP donnait le ton sur la question israélo-palestinienne. Donc, il y a cette régression, et cette régression favorise la multiplication, la prolifération, disons, de ce type d'attitude dans des médias qui sont d'ailleurs extrêmement divers et variés dans le monde arabe. Alors après, le fait de sélectionner tout cela comme fait la propagande israélienne et de présenter tout cela en jet continu, ça donne une image quand même du monde arabe qui est extrêmement réductrice, extrêmement caricaturale, parce que bon, tout cela existe, mais il y a aussi le contraire qui existe. Il y a des gens qui se battent contre ce type d'affirmation. Et je dois dire, mon livre est paru en tout début 2010 au Caire et à Beyrouth. Et il a eu des comptes rendus neutres, disons, dans la plupart des journaux du monde arabe, et puis a eu des comptes rendus très positifs de la part d'auteurs palestiniens dans un certain nombre de grands journaux.
Alors là, vous le dites, le livre est sorti en 2010, on est en plein réveil arabe, printemps arabe, comme on voudra. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui, ces dernières semaines, mois, à cette relation?
Oui, je suis optimiste, n'est-ce pas? Mais j'utilise le terme optimiste parce que c'est un processus en cours, parce qu'il est encore un peu trop tôt pour se prononcer sur ce sur quoi ça va aboutir. Mais incontestablement, il y a un changement d'atmosphère, y compris intellectuel et politique, par le fait que les courants qui étaient présentés jusqu'ici comme dominant la rue, entre guillemets, dans le monde arabe, je veux dire les courants intégristes, eh bien, n'ont pas été à la direction, à la tête de ce mouvement. On le voit en particulier dans un pays comme l'Égypte, hein, où là, il y a aucun doute sur le fait que la force la plus importante de l'opposition, en tant que force organisée, c'est les Frères musulmans. Or, ils ont rejoint le mouvement une fois lancé, hein, avec un certain décalage, et ils ne donnent pas le ton. Ils sont représentés, bien sûr, dans le mouvement, ils ont participé au mouvement, y compris à la direction du mouvement, mais sur un pied d'égalité avec des libéraux, avec des gens de gauche et même d'extrême gauche, hein, même des petits groupes trotskistes qui ont joué un rôle tout à fait démesuré. Hein, mais c'est comme ça que ça se passe dans les révolutions, on le sait, dans les grands mouvements de masse, dans les grandes irruptions, il y a qu'à voir 68 en France ou autre, eh bien, ce phénomène s'est passé. Et à mon sens, il y a probablement, parce que je reste dans la probabilité vu que c'est encore en cours, mais on est, ce que je disais tout à l'heure, au début d'une nouvelle phase dans la vie politique de la région qui va voir, bon, je l'espère en tout cas, se créer un terrain beaucoup plus favorable à l'émergence d'une nouvelle gauche, de forces progressistes et d'un mouvement ouvrier dans cette partie du monde où tout cela était bien absent depuis fort longtemps.
En tout cas, quand on visite Yad Vashem, qui est le mémorial de la Shoah à Jérusalem, à la fin de l'exposition, fin du musée, on a un grand panneau qui représente, pour revenir au mufti, Amin al-Husseini, avec Adolf Hitler. C'est l'image qui est donnée des Palestiniens dans ce haut lieu de la mémoire de la Shoah à Jérusalem.
Oui, tout à fait, parce que cette fameuse rencontre, unique d'ailleurs, bon, parce que Hitler a daigné rencontrer le Mufti une seule fois, et après beaucoup d'hésitations, il était un peu horrifié par l'idée de lui serrer la main, hein. Mais bon, après il a dû se convaincre qu'il avait un peu de sang arien dans les veines, vu qu'il avait les yeux bleus.
Oui, ça l'a rassuré.
Voilà. Oui, voilà. Mais cette image, elle est omniprésente. Elle est omniprésente, de même que la figure du Mufti est omniprésente. Effectivement, Yad Vashem, je n'y suis pas allé, mais des auteurs, y compris comme Tom Segev, par exemple, soulignent le fait que, bon, si on visite Yad Vashem, on a l'impression que le Mufti était un architecte majeur du génocide. Et il y a même, bon, ce que je cite, de Peter Novick, qui a fait un excellent livre sur la réception de l'Holocauste dans la mémoire américaine, où il relève que dans l'encyclopédie de l'Holocauste, qui est publiée en association avec Yad Vashem et en plusieurs langues, dans les biographies, eh bien, la biographie la plus longue après celle de Hitler, c'est la biographie du Mufti, qui est beaucoup plus longue que les biographies de Himmler, Goebbels, Eichmann, etc., etc. Alors qu'il y a des milliers et des milliers de nazis qui ont eu un rôle beaucoup plus direct, beaucoup plus important dans le génocide que le Mufti. Alors pourquoi il est monté en épingle de cette façon complètement disproportionnée? Bon, c'est fin de propagande qu'on a évoqué.
Merci à Gilbert Achkar. Je rappelle à nouveau le titre de son bouquin, Les Arabes et la Shoah, la guerre israélo-arabe des récits, qui a été publié chez Sinbad au début 2010. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, à la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Grégory Wallon. Coy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Le Bot, et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Nous partons demain matin pour le Japon. Demain après-midi, on vous laissera en compagnie de Manet et son déjeuner sur l'herbe. Et puis, en principe, nous serons en direct de vendredi à 15h depuis Tokyo. Il est 16h et quelques secondes sur Inter. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Boisson. Salut.
La situation reste toujours très confuse à Abidjan. Selon des témoins, les tirs à l'arme lourde dans le quartier de Cocody ont cessé depuis quelques heures et des hélicoptères de l'ONU survolent la zone. Ce matin, les forces pro-Ouattara ont lancé un assaut dit final contre le palais et la résidence du président sortant, Laurent Gbagbo. Les négociations entre son entourage et les autorités ivoiriennes ont échoué. C'est ce qu'a confirmé Alain Juppé à la tribune de l'Assemblée nationale. Le chef de la diplomatie française précise que ni les forces françaises ni celles des Nations Unies ne participent à ces combats. La Cour pénale internationale annonce par ailleurs qu'elle va ouvrir une enquête sur les massacres commis en Côte d'Ivoire la semaine dernière, à Dekoué notamment. C'est dans l'ouest du pays. Contre toute attente, Dany Le Prince retourne en prison. Sa requête en révision a été rejetée. Son avocat Yves Baudelot dénonce une décision d'une cruauté invraisemblable. Dany Le Prince avait été condamné en 97 à la prison à vie pour le quadruple meurtre de Torigné-sur-Dué dans la Sarthe, puis libéré au bout de 16 ans. La commission de révision des condamnations pénales avait en effet relevé de nombreuses failles dans l'enquête. Maître Baudelot envisage un recours en grâce auprès du président de la République. Les enfants nés de mères porteuses à l'étranger ne peuvent pas figurer sur l'état civil français. Décision de la Cour de cassation qui était très attendue par les parents de jumelles nées aux États-Unis et qui se battent depuis 10 ans. Sylvie et Dominique Menson se déclarent atterrés par cette annonce. Ils veulent saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Le recours aux mères porteuses est interdit dans notre pays. Limiter l'accès au centre-ville des véhicules polluants, c'est l'objectif du gouvernement. Des zones d'action prioritaires pour l'air, des ZAPA, seront créées l'an prochain dans 8 villes volontaires, dont Paris, Bordeaux et Lyon. Les villes détermineront elles-mêmes le périmètre exact et l'étendue de ces dispositifs, c'est ce qu'indique la ministre de l'écologie et des transports, Nathalie Kosciusko-Morizet. Les voitures de plus de 13 ans ou non équipées de filtres efficaces devraient être concernées en priorité, ainsi que certains poids lourds et deux roues. 6 des 10 jeunes impliqués dans l'agression de Noisy-le-Sec de samedi dernier devraient dormir en prison ce soir. Le parquet de Bobigny a requis un placement en détention à l'issue de leur garde à vue. L'état de santé de la victime s'améliore mais reste très sérieux. Selon les caméras de surveillance et leur audition, l'audition des jeunes gens en garde à vue, ils auraient bien tendu un piège à leur victime à qui ils reprochaient sa liaison avec une jeune fille de leur quartier. Les suites du débat sur la laïcité, il y en aura selon son organisateur Jean-François Copé. L'UMP prépare une résolution parlementaire. Elle sera débattue au mois de juin prochain à l'Assemblée nationale, indique le chef du parti majoritaire. Un texte qui détaillera une partie des 26 propositions présentées hier. Aimé Césaire au Panthéon, la cérémonie débute dans un peu moins d'une heure. Cérémonie présidée par Nicolas Sarkozy, entouré d'un millier d'invités. Il dévoilera une plaque. Conformément à sa volonté, le corps du poète martiniquais restera en effet en Martinique. Et puis il y aura 6 nouvelles épreuves aux Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi en 2014, dont le saut féminin à ski.
Tous les jours.
Qu'est-ce qui lui arrive, la pauvre ?
À partir de 11h.
Elle est nymphomane malgré elle.
Le fou du roi.
Stéphane Bern.
Donc dès qu'il y a un problème, vous avez mal garé votre voiture, oui. Le policier n'est pas content, plac, vous l'attrapez, ça fait du bien.
Demain, retrouvez le fou du roi en direct d'Athènes. Stéphane Bern et ses chroniqueurs recevront Claudia Cardinal et Antoine Antonianis.
Et alors ?
Le fou du roi.
Ben oui, oui, oui.
Tous les jours sur France Inter, à partir de 11h. France Inter, partenaire du hors-série Télérama Dogon à l'occasion de la grande exposition du Quai Branly. Peu de peuples ont été autant scrutés, analysés, photographiés que les Dogons du Mali. Redécouvrez un art, une statuaire, un artisanat et aussi le monde vu par des auteurs maliens. Dogon, un hors-série Télérama à lire en ce moment et à retrouver dans les émissions de France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h04, on retrouve Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Angélique, très heureux de vous retrouver aussi. La petite fille va bien ?
Très bien,
quel est son prénom ?
Chloé.
Chloé, bonjour à Chloé, gros bisous.
Merci.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, c'est le jour des enfants, jour du mercredi. La petite Chloé qu'on vient de citer est peut-être un peu trop jeune pour consulter l'histoire du soldat, très beau livre-disque qui vient de paraître, enfin qui sera là dans les magasins mercredi prochain, nous on l'a déjà en avance évidemment, mercredi prochain chez Didier Jeunesse. Et ce texte, cette pièce de théâtre, c'était écrit en fait pour un théâtre ambulant de Stravinsky pour la musique et de Ramu pour le texte, bah, c'est quelque chose qui nous reste à travers plein de versions qu'on a connu, qu'on a aimé autrefois, Cocteau, Peter Ustinov, etc., etc. Donc c'est un conte populaire russe au début, que Ramu a adopté en français, parce que Stravinsky était en Suisse pendant la Première Guerre mondiale, d'abord parti là-bas, réfugié, puis coincé tout simplement, et il s'est dit que ce serait bien, finalement, de pouvoir donner des pièces de théâtre dans des petits villages, avec très peu d'exécutants, de faire quelque chose de vivant, et les deux hommes se sont bien rencontrés, et le diable est présent là-dedans, c'est normal en temps de guerre. L'histoire est assez simple, il y a un soldat qui rentre au village, il est en permission, il rencontre le diable qui est déguisé, bien sûr, il échange son violon, son pauvre petit violon contre de la richesse, contre le pouvoir de découvrir l'avenir aussi, un livre magique qui permet d'avoir le cours de la bourse bien en avance, bien avant France Inter, et il découvre qu'il lui manque quand même l'essentiel, c'est-à-dire que il a donné son âme avec son violon. Il voudrait revenir pauvre soldat, redevenir ce personnage simple mais heureux. Mais alors, après avoir réussi à reprendre le violon au diable, il va charmer une pauvre princesse qui est très malade, il va la réveiller, comme promis le roi va lui donner sa main, il devient prince, mais il veut en plus revoir son village natal. Mais morale de l'affaire, un bonheur est tout le bonheur, deux c'est comme s'il n'existait pas, et le pauvre soldat va tout perdre, et le diable qui lui avait dit « Attention, interdiction de passer la ligne, ne reviens pas chez toi, sinon tu vas tout perdre », le diable va finir par triompher. Voici la marche du soldat, premier morceau de l'histoire du soldat d'Igor Stravinsky, texte de Charles-Ferdinand Ramu.
entre d'Ange et de Neuzy. Un soldat rentre chez lui. Jours de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. A beaucoup marché. S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché.
La marche du soldat, de l'histoire du soldat de Stravinsky et Ramu. Donc il rentre chez lui, ce soldat. Là, on a entendu les membres de l'orchestre de la garde républicaine dirigé par le colonel François Boulanger. Je connais François Boulanger très bien, c'est surtout un très grand musicien. Et il est colonel en plus, bien sûr, il porte l'uniforme, il donne des concerts très souvent, dans les circonstances